Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h, les amis, avec nos trois vraies voix du soir. Jean Terlon, bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
C'est votre première, non pas dans les vraies voix, mais c'est votre première comme vraie voix. Vous l'avez sûrement déjà entendu comme invité. Il est vice-président de la branche restauration de Lumi. Il est restaurateur lui-même. Parfois, il nous appelle au 0826-300-300 sous le sobriquet de Jean de Longjumeau. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir en chair et en os. Ça va, Jean ?
Ah bah très bien, merci de m'inviter.
Le trac ou pas ?
Ah, pas du tout, non.
Pas du tout,
ma
jamais.
Femme, elle traque pour moi, ça suffit.
Bon, bah écoutez, si Madame Terlon s'inquiète, qu'elle se rassure, on va bien vous traiter.
Elle a tout coupé.
Elle a tout coupé. Moradei Tabouche, comment ça va ?
Bah très bien, Jean-Marie, mais vous avez la patate ce soir.
Mais écoutez, j'essaye en tout cas. Ben merci, ça veut dire que je ne l'ai pas d'habitude.
Si, si, c'est parce que j'ai voulu dire, mais vous avez vraiment la patate.
Réalisateur de la série Sale Temps pour la planète sur France 5, à quelle heure ?
20h50.
Ce soir.
On vous emmène dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan et ensuite en Corse.
Exactement.
Donc de très beaux voyages, mais pour aussi ouvrir un tout petit peu les consciences sur cette réalité qui nous frappe, le changement climatique qui est en cours.
Et on va en parler, on en reparlera d'ailleurs de ses conséquences. Dans certaines îles françaises du Pacifique où était le président de la République, Alaa Oukili est avec nous, conscience éveillée s'il en est. Bonsoir à vous Alaa.
Bonsoir.
C'est votre première semaine, je le rappelle, à Sud Radio, deuxième dans les vraies voix. Chers amis, bon, faut quand même qu'on commence un petit peu par cette mauvaise nouvelle, désolé, hein, mais...
Oh, les champions, on est tous ensemble.
L'équipe de France olympique en football qui est éliminée aux Jeux olympiques après sa défaite 4-0 contre le Japon malgré André-Pierre Gignac. Déçu Morad ?
Un tout petit peu déçu, même si c'est vrai qu'on était encore plus déçu par l'élimination en huitième de finale de l'équipe de France
à l'Euro.
Tout court à l'Euro. Ouais. Non, bah déçu. Gignac a fait ce qu'il a pu dans le match précédent, mais là, le Japon jouait à domicile. Ils avaient évidemment envie de faire forte impression parce que le Japon commence à devenir une nation du football.
Oui, mais à domicile dans un stade vide, puisque tout était à huis clos, on aurait pu faire quelque chose. D'autres footés autour de la table ? C'est pas obligatoire. Vous avez le droit de répondre non, Jean Terlon ?
Non, plutôt rugby, mais faut
vous avez raison. Sur la radio du rugby, on en reparlera. Alaa ?
Plutôt foot, mais pas vraiment pendant les Jeux Olympiques.
Pas pendant les Jeux, ça tombe bien pour les joueurs de l'équipe de France non plus. Exactement, mauvais décalage horaire. Au programme, les amis, de ces vraies voix Sud Radio, on va reparler du pass sanitaire. Est-ce qu'il coûte aussi cher aux entreprises qu'un confinement ou qu'un couvre-feu ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, on viendra sur les chiffres des fréquentations en chute libre, notamment des cinémas. On va parler de la Polynésie française. Nous avons une dette, nous, la France en général, envers la Polynésie à cause des essais nucléaire mené sur place pendant des années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat signé Emmanuel Macron ? Et puis notre grand débat avec la décision du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui compte isoler à domicile les élèves des lycées et collèges qui sont cas contact quand ils ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est injuste ou pas ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826-300-300. Tout de suite, on vous emmène dans la Vendée, les amis.
Les vraies voix Sud Radio.
Jean Terlon est toujours avec nous, restaurateur, s'il en est, vice-président de la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et nous, nous allons en Vendée à la rencontre de l'un de vos confrères, Jean Tarek Tarouche. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
On est entre amis sur Sud Radio. Voilà. Vous êtes le président de l'UMI de la Vendée. C'est le syndicat des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers du département. Vous avez vous-même trois restaurants. Vous avez décidé de proposer à des retraités de travailler gratuitement pour vous pour effectuer les contrôles du pass sanitaire. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est sérieux, Tarek Tarouche ?
Ben écoutez, à votre avis, je pense que là aujourd'hui, quand on met quelque chose en place et on ne donne pas les moyens aux gens, on fait avec ce qu'on peut et on fait avec les moyens de bord. Donc aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, ça peut paraître une blague, ça peut aussi s'apparenter à du travail dissimulé, etc. Mais là aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas eu les moyens de contrôler. Je pense que Jean vous le dira mieux que moi. Pour faire contrôler un pass sanitaire, on peut le faire certainement avec nos salariés, mais ils ne seront pas au service.
Pourquoi des retraités et pourquoi gratuitement alors ?
Mais tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a plus de sous. C'est aussi simple que ça. On n'a pas de. Vous croyez que pendant la période où on était fermé, on a accumulé un trésor de guerre. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'embaucher. On n'a plus de personnel déjà embauché.
Vous avez lancé cet appel aujourd'hui qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce que sur le même ton ironique, vous avez eu des retraités qui ont répondu en disant on peut venir travailler gratuitement pour vous ?
Mais je vais vous faire une confidence. L'idée est venue des retraités eux-mêmes qui m'ont dit bah, écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, on viendra vous filer un coup de main.
Ça va vraiment arriver.
Mais je suis quand même juge au prud'homme, je vais vous expliquer, donc je sais de quoi il s'agit. Ça veut dire embaucher des gens, mais on trouvera la solution. Nous, on est une association, Limi, Jean vous le dira, on est une association, donc on peut trouver les moyens pour le faire. Mais c'est vrai, c'est une provocation. Là, c'est aujourd'hui, une... c'est ce qu'on dit.
Moi, je trouve pas tant que ça.
Moradaille ta bouche.
Jean-Marie a l'air très surpris, mais non, je suis absolument... Moi, je trouve que c'est d'abord une belle initiative.
Ouais.
Et je trouve aussi que socialement, par les temps qui courent, c'est formidable que des retraités puissent dire bah, « Nous, on a du temps, on a envie de vous aider. » C'est vrai que, certes, le président Macron a fait ça un tout petit peu brutalement et on a dit que sur la méthode, bon, on l'a déjà condamné. C'était un peu rapide, un peu brutal. Pour le reste, moi, je trouve ça formidable. Parce que c'est ça, le lien social. C'est ça qui est formidable.
Vous serez
retraité aujourd'hui.
Un jour, le plus tard possible. Je vous le souhaite, Morad, vous irez travailler gratuitement.
Très franchement, et en plus, j'ai été président des Palmes du Tourisme Durable, et j'invite Tarek, justement, sur initiative pareille, de venir et de nous proposer, justement, sa candidature pour les prochaines Palmes.
Le message est passé.
Non, franchement, je trouve que c'est des belles initiatives, parce que d'abord, dans ces territoires, il faut renouer le lien social.
On se retrousse les manches et on serre les coudes. Même constat, là, Oukili ?
Alors oui, je ne suis pas vraiment choquée par le fait que l'on se mobilise, parce que, faut-il le rappeler, nous sommes toujours en crise et nous avons eu énormément de gens qui sont mobilisés dans les hôpitaux. Moi, personnellement, j'ai fait la lavandière pendant le premier confinement à la PHP.
Ouais.
On a énormément de gens qui ont appelé les personnes isolées, etc., etc. Maintenant, ce qui me frappe quand même, et moi me choque particulièrement, c'est qu'on fasse appel à des retraités, tout en sachant qu'ils font partie des personnes, enfin ce sont les personnes les plus à risque, qui sont vulnérables malgré deux doses de Covid pour beaucoup d'entre elles.
Deux doses de vaccin, vous
pardon, excusez-moi.
Une dose de Covid,
Covid, c'est déjà pas mal. Et du coup, je me demande pourquoi ne plutôt pas avoir fait appel à des jeunes, parce que c'est...
La réponse
ils ont
de Tarek Tarouche.
Je vais vous répondre. Non, plus sérieusement. C'est vrai que l'idée n'est pas tout à fait farfelue par rapport au lien social. C'est vrai que une moyenne d'âge de notre personnel, vous connaissez très bien cette moyenne d'âge. Mm-hmm. On est à 25 ans à peu près. C'est des jeunes qui ont laissé leur place à ces personnes âgées au départ qui sont vulnérables. Et c'est la moindre des choses que ces personnes redonnent ce qu'ils ont reçu en termes de sacrifice. Par rapport à la vulnérabilité des personnes âgées vaccinées, je peux vous dire que, et je l'assume, et je le dis avec la vulnérabilité, même si l'émission est plus joyeuse que ça, c'est qu'aujourd'hui, les lieux les plus sûrs, sont les restaurants, les discothèques, les bars, etc. Il faut le rappeler. C'est important parce que...
Je comprends, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que les lieux les plus sûrs sont les discothèques ou les restaurants, par exemple ?
Mais parce qu'on suit un protocole exceptionnel, je vous assure. Je suis là tous les jours, je vois mes collègues. Vous arrivez, dès que vous arrivez à la porte, ils vous disent de mettre votre masque. S'il vous plaît, monsieur, allez vous rincer les mains, etc. Mais je vous assure que n'écoutez pas les autres. Les restaurateurs sont très responsables et c'est pas une publicité que j'ai fait, c'est une réalité.
La question, malheureusement, c'est pas celle des professionnels, des restaurateurs et de ceux qui accueillent le public. La question aujourd'hui, c'est parfois l'irresponsabilité des Français, de la population. Et c'est là où le bât blesse encore une fois.
Décale aussi.
Bah, les jeunes dans les discothèques, on a vu.
C'est toujours sur les jeunes.
Non, mais pas seulement les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu des rassemblements, on a vu un certain nombre de fêtes improvisées où là, il n'y avait absolument, mais vraiment absolument, aucune distance sociale respectée. Il n'y avait absolument rien de
c'est
respecté.
Sous contrôle dans les
Quand
discothèques.
Dans les manifestations, l'impression qu'on voit ces derniers temps, il y en a encore une samedi, hélas, on voit les gens dans une promiscuité qui sont opposés, évidemment, parce qu'on peut entendre que ça de leur part, au vaccin. Bon. Non, c'est moi, je trouve que c'est de l'irresponsabilité. Dans les discothèques, oui, il faut effectivement...
C'est irresponsable d'aller en boîte ? Elles ont rouvert,
j'ai pas dit que c'était irresponsable d'aller en boîte. Je dis que malheureusement, il y a des comportements irresponsables, y compris dans les boîtes. Il ne peut pas y avoir un policier. Et heureusement qu'il n'y a pas un policier derrière chaque client, chaque consommateur, parce que là, on vivrait une dictature. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est le comportement individuel qui doit être responsable.
Jean, vous êtes vice-président de la branche restauration de Lumi. Les clients, d'abord, des restaurants, comment ça se passe avec eux, ne serait-ce que pour le respect des gestes sanitaires?
C'est ce qu'on a toujours dit. On a mis des protocoles sanitaires. Ce que fait la Vendée, c'est l'esprit de la Vendée, c'est l'esprit du Puy du Fou. Hein. Je pense que c'est la solidarité et c'est une région qui est très forte dans ce domaine. Donc, je trouve ça très intéressant. Il a raison de dire que les lieux les plus sûrs pour la contamination étaient bien les restaurants qu'on a fermés et les discothèques et les bars, puisqu'on avait des protocoles. Ouais. On était dans la capacité de mettre en place et d'imposer des protocoles, ce qui n'était pas le cas des lieux privés. Donc évidemment qu'on a... Et il faut continuer d'ailleurs, je regrette qu'on ait, retiré ces protocoles de porter le masque dans les restaurants, de se laver les mains. Mmh. Se laver les mains avant de manger, ma grand-mère me le disait.
Je veux dire, c'est des choses comme ça. On s'est même fait engueuler plusieurs fois.
Voilà, on s'est fait souvent engueuler plusieurs fois et c'est quand même des choses simples qui permettent aujourd'hui que le virus ne circule pas. Donc même si on est vacciné, il faut continuer à porter le masque. Et puis, les professionnels, ils ont mis des protocoles. On les a mis en place. Ouais. Ils ont été validés par le conseil scientifique. Et ça s'est globalement bien passé. Mais c'est vrai que le français réfractaire, il a fallu l'éduquer à porter un masque dans un restaurant. Parce que c'est un lieu de...
Oui, sinon, il n'y aurait pas de nouveaux clusters.
On aurait eu des masques depuis longtemps. Il y aurait moins de soucis.
Nous sommes d'accord.
Dès le début de la crise, en tout cas, bon courage.
On ne va pas refaire l'histoire parce qu'on sait pertinemment que malheureusement, à l'époque, c'était une autre époque. Les masques n'étaient pas utiles.
Bon courage à vous, Tarek Tarouche.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Peut-être que dans plusieurs dizaines d'années, je vous rappellerai, on verra, en tout cas, quand je pourrai travailler pour vous.
Gratuitement,
résident.
Jean-Marie. Il n'y aura plus de virus,
Travailler gratuitement, ça s'appelle filer un coup de main. Président Tarek Tarouche, je le disais, de Lumi 85 dans la Vendée, syndicat des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers du département. Les amis, restez sur Sud Radio, les vraies voix sont en pleine forme, avec ou sans passe sanitaire, d'ailleurs, sans passe pour l'instant. On va partir dans deux minutes en Polynésie française, avec Morad Aitabouche, qui va nous parler d'un des problèmes structurels sur place. C'est quoi d'ailleurs le problème de santé publique qu'on a
l'obésité,
notamment
l'obésité, hélas.
Exactement. À tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Jean Terlon, le restaurateur, Ala Oukili, la journaliste Sud Radio, et le réalisateur Morad Aitabouche qui connaît bien la Polynésie. Ça tombe bien, Emmanuel Macron y était il y a quelques heures encore. Vous nous le disiez, Morad Aitabouche, l'un des problèmes, l'un des fléaux qui frappe la Polynésie française, c'est l'obésité. Pourquoi on est plus facilement obèse en Polynésie qu'en métropole?
Alors d'abord, il faut quand même rappeler, puisqu'on parle des essais nucléaires, on parle aussi du
pardon. On va en parler dans un instant.
C'est lié. Ouais. En fait, lorsque la France a demandé à la Polynésie de faire des essais nucléaires, en contrepartie, il y a eu de l'argent, des subventions qui sont arrivées sur le territoire polynésien. Et du jour au lendemain, il y a eu aussi des produits qui n'étaient pas des produits locaux, c'est-à-dire les noix de coco, c'est-à-dire l'igname, c'est-à-dire tout ce qui est produit sur place par tous les Polynésiens. Quand on se souvient, par exemple, du film « Les révoltés du Bounty » avec Marlon Brando, ces femmes polynésiennes, mais magnifiques. Quand on voit aujourd'hui les femmes polynésiennes, elles sont devenues obèses. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Malheureusement, est arrivé ce qu'on appelle la « junk food », c'est-à-dire de la nourriture sous sachet, avec plein de sel, que des...
Alors, ce n'est pas des restaurants fast-food, c'est ce qu'on achète dans les supermarchés
sur place. Exactement. Alors, c'est souvent des produits chinois, sous vide, avec plein de sel, des chips, etc. Et là où avant le Polynésien, pour aller préparer son petit déjeuner ou son déjeuner, monter à l'arbre pour aller chercher la noix de coco.
Ça, c'est une image.
C'est une image, mais c'est vrai aussi. Non, mais pardon, ça n'a rien de péjoratif. Hein, encore une fois, moi, j'adore cette culture locale. Et chaque jour, il y avait du. Enfin, je veux dire, physiquement, il se dépensait.
C'était un autre
pour
mode
produire
de vie.
Une culture vivrière. Ouais. Et c'était surtout une nourriture saine, très saine. Du jour au lendemain, l'argent est arrivé avec les essais nucléaires. Du jour au lendemain, des supermarchés sont arrivés et on a achalandé toutes les étagères avec tous ces produits qui ne sont absolument pas des médicaments, mais qui sont à petite dose, mais petite dose plus petite dose, à la fin, ça devient des poisons.
Sans effort, surtout. Alors, ceci dit, pour mettre un bémol à ce que vous dites sur la Polynésie française, si je regarde la liste fournie par l'Organisation mondiale de la santé en date de 2014, les pays par taux d'obésité en record, les pays indépendants, le record, c'est les îles Cook, c'est dans le Pacifique, 50,8% de la population obèse. Suivent les Palaos, Nauru, Samoa, Tonga, les îles Marshall, les six, tous à plus de 40%. Ça concerne tout le Pacifique. Pourquoi ?
En fait, ce sont d'abord et avant tout des îles, et du jour au lendemain sont arrivés ces junk food. Petit 1. 2. Par exemple, Nauru, le président avait demandé à tous ses ministres, il les avait mis au défi, il leur avait dit, si vous perdez 20 kilos, vous donne une prime. Ils faisaient tous, en moyenne, autour de la table du Conseil des ministres, 180 kilos. Il faut juste imaginer. Donc, toutes ces îles du Pacifique, malheureusement, qui vivaient de cultures vivrières, où effectivement, il fallait se lever tôt, il fallait physiquement travailler pour nourrir sa famille, et du jour au lendemain, sont arrivés dans ces grands magasins,
des produits bas de gamme, très salés, très sucrés.
Et on pourrait en parler pendant des heures sur les maladies qui sont liées à tout ça.
Bien
le
sûr.
Diabète, les problèmes cardiaques.
C'est votre métier, Jean Terlon, l'alimentation, vous êtes restaurateur.
Mais je disais hors antenne que la cuisine crétoise, qui est la meilleure cuisine du monde en termes de santé.
Le régime crétois.
Régime crétois, on mangeait des escargots, des herbes, des orthodoxes, l'huile d'olive qui est fantastique. Et les cardiologues, moi j'avais un copain cardiologue, il dit un cardiologue, là-bas il ne va surtout pas s'installer, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire. Du jour de l'arrivée de la sandwicherie, de tout genre. Ouais. Donc la mode de nourriture a changé, la facilité de se nourrir, parce que c'est une sorte de flemme de ne pas vouloir cuisiner quand même. Et bien effectivement, ils ont découvert des maladies cardiovasculaires. Donc c'est cette cuisine achetée toute prête et bourrée de saloperies dedans, de sel, de sucre, et puis de conservateurs, puisqu'il faut que
vous luttez contre ça aussi parmi les restaurants, parce qu'il y a aussi des... Bon, vous avez vos moutons nains à vous, les produits tout faits, par exemple, ça existe aussi chez certains restaurants.
Ah oui, on n'est pas tous blanc-bleu, c'est clair.
C'est sûr.
Mais heureusement, je pense que ça change beaucoup. Je pense que les gens comprennent de plus en plus conscience. D'ailleurs, je pense que la première pandémie a eu cet effet assez intéressant de redécouvrir la cuisine, de redécouvrir, de faire la cuisine, d'aller chercher des produits de proximité.
Vous étiez fermé, on n'avait pas le choix, Jean Terlon, vous êtes resté. Restaurateur.
Voilà.
À la Oukili, vous avez refait la cuisine, vous aussi, pendant le confinement ?
Et des photos magnifiques. J'ai copié toutes les Instagrammeuses qui faisaient les photos.
Le régime crétois.
Exactement. Plein de photos avec plein de bons repas. Et c'était une époque éprouvante, mais on a pu effectivement.
Il y avait un côté positif.
On s'est occupé, en tout cas, avec ça. Comment on explique que certains territoires d'outre-mer, la Polynésie, a un tel taux d'obésité, que même cette région du monde, là, qui n'est pas forcément française, ait un tel taux d'obésité ? Vous êtes convaincu par l'explication de Morad ?
Moi, j'ai entendu il n'y a vraiment pas longtemps une amie avocate qui vient justement, qui est aussi à moitié polynésienne et qui m'en a parlé. Donc, je trouve ça assez marrant qu'on en parle aujourd'hui. Elle m'expliquait que c'était l'influence des États-Unis plutôt, que c'était la nourriture américaine qui était devenue.
Alors,
les produits
pour la
américains.
Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas tous ces restaurants, tous ces
fast-foods. Non, mais je parle de food américaine et non. J'ai entendu de la junk food américaine ou chinoise, mais je veux bien vous croire.
Moi, je suis allé à Papeete, je suis allé à Mani, là où était le président. Justement, tous ces endroits, malheureusement, il y a à chaque fois un supermarché dans lequel vous avez malheureusement pas le choix.
C'est
et
ça.
Vous avez que des produits
sous vide,
des
chips,
etc.
Si je vais faire mes courses, moi, dans un supermarché en France, si j'ai envie d'acheter ce que vous appelez de la junk food, enfin de la malbouffe, quoi, je peux, c'est facile, ça se trouve. Pourquoi il n'y a pas autant d'obèses en métropole que dans d'autres îles ?
C'est le pouvoir d'achat déjà, attention.
Non, mais je pense que les organismes mettent un certain temps à s'adapter à cette nouvelle nourriture. Hélas, nous, malheureusement, depuis très longtemps, on a le choix.
Ouais.
Alors, il y en a qui font les bons choix, d'autres qui font, hélas, les mauvais choix. Malheureusement, encore une fois, en Polynésie, c'est cette brutalité avec laquelle cette junk food est arrivée. C'est ça, le malheur. Encore une fois, qu'elle soit d'origine américaine, chinoise, malheureusement, dans votre plat...
Ce qui compte, c'est le produit qui est mauvais,
vous
plus que son
évidemment
origine.
Évidemment, parce qu'il faut...
Les produits transformés, c'est ce qu'il y a
exactement, et vitamines, etc.
Et à ceux qui se le demandent, la France est le 65e pays au monde, d'après toujours ce classement de l'OMS en 2014, c'était le 65e pays au monde en termes de taux d'obésité.
Je peux préciser
23,9% des Français...
C'est très discriminant. L'obésité, c'est souvent les pauvres
bien
qui
sûr.
Sont malheureusement les premiers impactés, les premiers frappés. Si on reprend l'exemple des Américains, aux États-Unis, on est dans des situations malheureusement extrêmes où c'est très radical. La discrimination, malheureusement, l'obésité touche d'abord et avant tout
les pauvres. Elle touche les pauvres d'une part, et d'autre part, c'est une très forte discrimination à l'embauche. Ça a été calculé
bien sûr.
C'est redoutable. À la Oukili ?
Et ça coûte beaucoup moins cher de remplir bien à ras bord son caddie de produits
naturels et sains.
Non, catastrophiques que de produits sains aujourd'hui. Ça,
c'est le problème aussi.
Et quand vous allez dans des endroits de la
France. Ça se discute.
Ah bah, franchement, je peux vous garantir que des pâtes avec de la sauce de n'importe quoi, blindées de sel et du fromage de mauvaise qualité râpé, où il y a plus d'huile que vraiment de lait, ça coûte vraiment pas.
Est-ce que le restaurateur confirme?
Oui,
c'est moins cher d'acheter de la merde. Je traduis la question, mais c'est celle-là.
Le sujet de savoir si c'est moins cher ou pas cher, c'est pas ça. Il faut se donner une ligne. Soit on a envie de manger de la viande tous les midis et tous les soirs, ça c'est insupportable.
Et c'est pas bon pour la santé.
Je pense qu'il faut absolument manger correctement, peu, mais bon.
Est-ce qu'on peut le faire pour pas cher?
Oui, mais bien sûr, mais il suffit de savoir que quand on cuisine, on peut utiliser pratiquement à 100%
c'est comme
un produit.
Tout, et ça s'apprend. Restez sur Sud Radio, les amis, les vrais voirs viennent dans un instant. Est-ce que le pass sanitaire va coûter aussi cher aux entreprises, d'ailleurs, eh bien, que le confinement ou le couvre-feu, en un mot, pour vous, Jean Terlon?
Ah bah ça va être la surprise, moi je dirais au moins 20-30%.
Oui, bah ce sera toujours moins qu'un confinement.
Mais pas en Vendée, visiblement.
Pas en Vendée, ce sera autre chose. Les amis, vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez si vous êtes restaurateur, 0826-300-300, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec le réalisateur Morad Aïtabouche. Nous sommes également avec le restaurateur Jean Terlon, de Longjumeau et vice-président et des restaurateurs de son syndicat Lumi. Nous sommes avec la journaliste Sud Radio aussi, Ala Oukili, jusqu'à 19h tout de suite. Écoutez, ben, on fait le premier bilan du pass sanitaire après une semaine.
Les vraies voix Sud Radio.
Et on vous pose cette question. Est-ce que le pass sanitaire va coûter aussi cher que la fermeture, globalement, pour les entreprises qui sont concernées par celui-ci? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 90%. On a 90% des auditeurs sur Twitter qui disent le pass sanitaire, c'est presque un confinement. En un mot, Jean Terlon, c'est pire que le confinement?
Non, on va pas être dans l'extrême, on n'est pas dans le pire, mais on est dans une incertitude et on est aveugle devant le truc.
Justement, Ala Oukili, on va commencer à prendre le pouls de toutes ces professions qui l'appliquent depuis une semaine quand elles accueillent plus de 50 personnes. Ça concerne les cinémas, les salles de sport, les centres aquatiques aussi, les musées. Et vous nous dites qu'il y a une douche froide, notamment pour le monde de la culture, Ala.
Oui, Jean-Marie, c'est plus particulièrement pour la fréquentation des cinémas. La baisse a atteint 45% sur tout le territoire, notamment chez le mastodonte du secteur Gaumont-Pathé. Mmh. Des multiplexes en région ont, eux, fait carrément le grand plongeon. Mmh. C'est le cas du plus grand cinéma d'Europe situé à Lomme dans le Nord, qui a enregistré une baisse de 91% le 21 et 66% le samedi 24. Ouais. Dans la capitale également, c'est le réseau MK2 qui a pourtant une fréquentation très cinéphile, très parisienne, qui a vu chuter son public d'abord de 70% mercredi dernier, puis 40% le week-end.
C'est un vrai plongeon, en tout cas. On a une double peine, vous nous dites, pour les patrons de salles de cinéma. Pourquoi double peine?
Eh bien, écoutez, parce que d'abord, ils souffrent donc de ce public qui déserte leurs salles, mais en plus, ce sont aussi les exploitants qui deviennent très, très frileux. Ouais. En effet, on a énormément de patrons de salles de cinéma qui redoutent le report du film le plus attendu de l'année. C'est OSS 117.
Avec Jean Dujardin.
Alerte rouge en Afrique noire, avec Jean Dujardin, et qui devait sortir le 4 août.
Ah oui, parce qu'on a eu une grosse production, c'est Kaamelott qui est sorti cette semaine. Mauvais chiffre.
Voilà, autre blockbuster qui devait cartonner, qui a fait d'ailleurs plus d'entrées le soir de l'avant-première que le lendemain, parce que le lendemain a coïncidé avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, et donc les exploitants se disent pourquoi gâcher un bon film.
C'est ça. Donc les salles de cinéma ont peur que les gros films qui sont à venir et qui doivent arriver dans nos salles, eh bien, ils soient reportés pour que tout le monde puisse les voir sans pass sanitaire. Est-ce que ça a des conséquences pour l'emploi, Ala? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont placer par exemple du personnel en chômage partiel?
Eh bien oui, figurez-vous que j'ai contacté l'une des directrices d'un centre aquatique que nous avions déjà eu la semaine dernière. Ouais. Elle m'a confié qu'ils ont de nouveau effectivement recours au chômage partiel depuis la mise en place de ce pass sanitaire. Ils ont enregistré entre 60 à 70% de baisse de fréquentation.
C'est considérable.
Et ce n'est pas tout. La directrice s'attend à une baisse des renouvellements de l'abonnement pour leur salle de sport. Pour la rentrée, car sa clientèle ne sera pas dans les délais pour se faire vacciner.
Parce qu'ils n'ont pas encore le temps. Bon, c'est assez inquiétant sur le plan économique, Morad Aitabouche. Ouais,
surtout lorsqu'on parle de l'Aqua Boulevard, a priori, ouais. C'est ça. C'est quand même, le chiffre d'affaires se fait plutôt l'été. Donc c'est quand même un peu dramatique. On l'avait la semaine dernière. Elle nous disait qu'elle avait plutôt bien anticipé, ouais. Plutôt bien organisé. Et on voit que malgré tout, malgré le fait que tout est bien organisé, elle a même, si je me souviens bien, embauché de nouvelles personnes pour organiser ce pass sanitaire et donc ces contrôles. C'est terrible. Le cinéma, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. On est sur des chiffres quand même qui sont assez catastrophiques. Ouais. D'habitude, on accuse la météo. Là, en l'occurrence, Paris, on peut dire qu'effectivement, il ne fait pas très beau. Ouais, dans le reste de la France, quand on regarde le sud, il fait très très beau.
C'est ça.
Mais non, c'est
en général, s'il fait beau, on va à la piscine. S'il ne fait pas beau, on va au cinéma. Exactement. Là, les deux plongent. Donc, voilà. Il n'y a pas de jaloux,
moi,
malheureusement.
Je relativise toujours parce que je me dis quand même que malheureusement, on est tous dans cette impasse. On est encore dans cette crise. Il ne faut pas se mentir. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on va peut-être s'en sortir en étant toujours à cette distanciation
sociale.
Bruno
Le Maire, ce matin, sur une radio concurrente, le ministre de l'Économie a promis que le gouvernement aiderait les entreprises qui verraient leurs chiffres plonger. Jean Terlon, est-ce qu'il y a des restaurants qui risquent de refermer parce que le pass sanitaire décourage leurs clients ? En tout cas, une partie de leurs clients.
Le problème de cette mise en place du pass sanitaire tombe vraiment à un très mauvais moment, c'est la saison. Si en amont les discussions avaient vraiment eu lieu, parce que j'ai entendu tout à l'heure le porte-parole dire qu'ils ont discuté avec tout le monde. Nous, on n'a jamais eu de discussion. On a appris à la télévision le pass sanitaire et 15 jours pour le mettre en application. On connaît les difficultés. On est bien sûr pour la vaccination. On est pour se sortir de ce truc. Simplement, après, il faut sur le terrain. Il y a des réalités de terrain qu'ils ont peut-être pas. Donc, la problématique. J'ai perdu mon fil dans l'histoire.
Bon, vous disiez qu'il n'y avait pas de bon moment et que la problématique était compliquée.
La problématique est compliquée. Et puis, moi, je trouve que les salles de cinéma, j'imagine les restaurateurs qui ont plusieurs entrées, surtout sur les terrasses.
C'est vrai.
Parce que là, il n'y a qu'une entrée, c'est plus facile à contrôler.
Bien
sûr. Ça va être un sacré souk. Hein.
Donc, vous, en plus, ça va être très compliqué. 0-826-300-300. Il n'y a pas que les restaurants qui seront concernés. Il n'y a pas que les salles de cinéma qui le sont depuis une semaine. Il y a les salles de sport, on le disait. Tiffany, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Vous nous appelez depuis Valence, vous êtes la gérante d'une salle de sport. Est-ce que ça a plongé chez vous ?
Alors, par chance, on n'a pas plongé, mais évidemment, il va y avoir des pertes des adhérents parce que certains ne veulent pas se faire vacciner ou d'autres attendent patiemment leur deuxième dose. Donc oui, on commence à ressentir dès la semaine prochaine un ralentissement.
Ouais, un petit ralentissement. Comment ça se passe globalement ? Vous, c'est des abonnés en salle de sport, c'est pas des gens qui viennent parce qu'ils passaient par là ?
Oui, exactement. C'est des abonnés qui restent sur de longue date parce que nous, en fait, on est sur une prise en charge médicale sportive.
Ouais.
Mais alors, on est entre deux, en fait, parce qu'on a à la fois la prescription médicale qui nous appuie, qui dit, voilà, il faut qu'ils soient là. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a cette contrainte, vous ne pouvez pas les accueillir tant qu'ils n'ont pas leur vaccin.
Oui, effectivement.
Donc, on est un petit peu assis entre deux chaises.
Il y a deux injonctions médicales contradictoires. Accueillez-les pour les soigner, mais ne les accueillez pas s'ils ne sont pas vaccinés, quoi. Et vous faites quoi dans ces cas-là ?
Eh ben, on leur demande de patienter, évidemment. Par chance, c'est un public fragile. On est sur des personnes concernées par le surpoids ou par l'obésité. Du coup, ils ont déjà eu une première dose à 90%. Et 80% d'entre eux ont déjà eu la deuxième.
Oui.
Mais bon,
comme vos abonnés sont majoritairement des personnes à risque qui avaient besoin de faire du sport pour se soigner, en gros, ils sont très largement vaccinés parce qu'ils risquaient trop avec le Covid, quoi, c'est ça ?
Exactement.
Il y en a qui refusent le vaccin ou qui en ont peur ? Qui vous le disent ?
Oui, vraiment. Il y en a qui sont clairement contre. Mm-hmm. C'est leur choix. On le respecte totalement. C'est vrai qu'il est imposé au dernier moment comme ça. Mm-hmm. Bah là, on va s'adapter. C'est des patients qu'on ne va pas voir quelques temps. Ouais. Et on va voir comment ça évolue, en fait.
Et c'est quelle proportion, à peu près, de vos clients ? C'est vos patients, presque ?
Alors, il y a deux choses. Moi, je dirais qu'il y a 10% qui refusent de se faire vacciner.
Ouais.
Et sur les autres, ceux qui sont vaccinés, j'ai envie de dire, il y a plus de la moitié qui l'ont fait par contrainte. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils y sont allés, mais ils auraient préféré ne pas y aller.
Oui, voilà, c'est ça, en gros. Donc, du coup, vous avez 10% qui ne voudront pas le faire, ou en tout cas, qui n'ont pas envie. Merci, Tiffany, bon courage. Tenez le
Merci.
Coup. Surtout
Merci beaucoup.
Dans votre salle de sport, on viendra vous voir aussi, nous aussi, on a peut-être besoin de faire de l'exercice, un de ces quatre du côté de Valence. La contrainte...
Parlez pour vous, Jean-Marie.
Oui, absolument, mais est-ce que la contrainte, finalement, le bâton agité par Emmanuel Macron, ça n'a pas braqué aussi beaucoup de Français qui hésitait à se faire vacciner, Morad.
On le sent bien dans les manifestations où on a de plus en plus, malheureusement, de personnes qui défilent, même s'il y a de plus en plus de villes qui demandent à défiler ou qui défilent. Non, encore une fois, moi j'ai toujours été pour la vaccination. Je vais pas le rappeler ici encore une fois.
Non, c'est pas la question que je vous pose.
J'ai passé 155 jours en réanimation à Pompidou en tant que réalisateur de documentaire, donc pour faire une série. Donc je sais exactement ce qu'est aujourd'hui le Covid et surtout les conséquences sur les gens qui arrivent et qui ont
mais c'est
des
pas
problèmes
la question.
D'essoufflement, pardon, bien mais sûr. Si quand même un peu. Contraindre ou pas, moi je peux vous dire que lorsque donc, vous êtes à l'hôpital, ouais. que vous voyez tous ces patients qui arrivent, juste parce qu'ils sont un peu essoufflés ou parce qu'ils ont un peu perdu le goût, et qui meurent, pardon de le dire comme ça, mais en 10-12 jours, ouais. bah, vous vous dites que c'est bien qu'on puisse vacciner. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de mieux que le vaccin. Rien. On a aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, à Pompidou comme...
Et le masque.
Et le masque, les distanciations ouais. sociales, évidemment. Mais on a trouvé un traitement, mais qui n'est pas valable à 100% pour les gens qui seraient et qui sont, hélas, malheureusement, hospitalisés dans les services de réanimation. Ouais. On a le tocilizumab, pour ne pas le citer.
Oui, on en avait parlé.
On
justement.
En a déjà parlé.
Plusieurs,
ça a été adopté
plusieurs traitements
par
qui ont été validés par
l'OMS. Par
l'Union européenne aussi.
Ce que je veux dire là, c'est que moi, je veux bien qu'on me dise ce que l'on veut, à condition qu'on me dise, voilà, j'ai un remède miracle. On va pas parler de Raoult
non,
ici.
Mais c'est pas,
hein.
Non,
heureusement,
mais c'est pas.
Il a disparu de.
Il n'empêche que vous
médias,
n'avez pas répondu. Est-ce que la question n'était pas est-ce qu'il a bien fait Macron de contraindre les gens, de pousser les gens à ça ? Est-ce qu'il a pas braqué ceux qui hésitaient ?
Moi, j'ai un chiffre. Le lendemain de son allocution, près de 800 000 personnes se sont déplacées pour s'inscrire. Le lendemain, autant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement,
c'était
à un
vu,
moment,
ouais.
il faut peut-être aussi pousser les gens,
agiter le bâton.
Sans les contraindre forcément,
d'accord.
parce que pour l'instant, on les a pas contraints.
On
leur a jamais mis un pistolet sur la tempe en leur disant « Allez vous faire vacciner ». Non,
alors,
pas vrai. On n'est pas dans une dictature.
Ah non, non, ça.
Personne n'a dit dictature.
Si, si, je l'entends dans les manifestations et c'est bien terrible.
Sud Radio, non, personne n'a dit.
Mais
dictature.
J'en ai Alain, marre.
C'est
d'entendre.
Exagéré.
Alain Oukili.
Alors, je pense effectivement que la vaccination aujourd'hui est au cristallise énormément, ouais. Énormément
de tension.
De tension, mais de tension surtout qui sont un peu légitimes. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais il y a toute une communication qu'on ne peut pas effacer comme ça du jour au lendemain. La manifestation aujourd'hui, son noyau dur a peut-être été les anti-vaccins au début, mais aujourd'hui c'est complètement, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est très très grave. Hein. Je m'explique. C'est que aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui rejoignent ces manifestations parce que ils veulent se battre, même étant vaccinés pour les libertés individuelles. Et ce qui doit vraiment nous inquiéter, c'est qu'on est laissé à un mouvement dont le noyau dur sont des anti-vaccins. C'est à eux qu'on a laissé la défense de ces libertés individuelles. Comme si on n'a retenu aucune leçon du passé. Mmh. Avant, on a laissé à des personnes dites, qualifiées d'extrême droite, la défense de la laïcité ou la lutte contre le terrorisme, etc. Voilà. Ouais. Et ça s'est retourné contre nous et on ne peut
donc
plus
vous...
d'ailleurs se battre pour la République aujourd'hui sans être qualifié
ça
de facho. Et aujourd'hui, parallèlement, on va commencer à normaliser un mouvement anti-vax au sein ouais. D'un plus grand mouvement qui se bat pour les libertés individuelles. Et on va démocratiser ouais. les anti-vaccins au sein
c'est
d'eux et on
ne
sait
inquiète.
Pas ce que ça va
donc
donner demain
vous,
au présidentiel.
Emmanuel Macron les a braqués. Si je reviens au centre
oui,
de
absolument.
Mon sujet, en tout cas
oui,
de ce débat, je vous en prie, c'est moi qui vous posais la question. Alors, Jean Terlon, optimiste ou pessimiste pour la fréquentation de vos restaurants dans les semaines qui viennent avec le pass sanitaire qui entrera en vigueur le 9 août.
Le président Macron a réveillé deux choses, la vaccination et les gilets jaunes. Mmh. Donc le principe de manifestation. Donc c'est un peu dommage. Effectivement, on peut discuter de qui est dans les manifestations. Oui, nous, c'est la problématique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça arrive à un moment compliqué, même si on va nous dire que le vaccin, il fait pas quand on veut et comme on veut. Mais...
vous avez peur de voir vos clients
voir. On nous met une épée de Damoclès supplémentaire où on a vu quand même qu'on a démarré 45 000 euros d'amende et un an de prison. J'ai l'impression de devenir
c'était
un délinquant
la première sanction.
Et non pas un restaurateur.
Ça a été baissé.
Ça a été baissé parce qu'on a demandé, voilà. Parce que heureusement qu'il
vous
y a des
êtes
ministres.
Battu.
Oui, et puis il y a des ministres comme Bruno
Le
Maire.
Ça va vous coûter cher ou pas, ce pass ?
Comment ?
Ce pass, il va vous coûter cher ? oui, vos restaurateurs.
Il va bien sûr coûter cher parce que
autant qu'un confinement, c'était ma question.
Quand je vois que les cinémas qui sont, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les cinémas ont un problème. Donc nous, on va en avoir un très très gros. Si voilà, ils en ont.
Vous êtes pessimiste en tout cas. C'est la question qu'on vous posait sur le Twitter de Sud Radio. Le pass sanitaire va-t-il coûter aussi cher que la fermeture pure et simple pour les entreprises? Vous répondez oui à 90% d'entre vous. Écoutez, on espère que ce sera pas à ce point-là. En tout cas, on suivra la situation. Tout de suite, direction la Polynésie.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio avec Morad Aïtabouche qui connaît par cœur la Polynésie et qui trépignait d'impatience, je le disais, le président de la République Emmanuel Macron en visite en Polynésie française. Emmanuel Macron qui a voulu solder le passé.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence. Pour faire entendre justement toute la vérité, pour qu'elle soit partagée, pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui. On a payé des tas de choses, parfois des tas de gens. On n'a pas payé les gens qui étaient victimes.
46 essais nucléaires, notamment, avaient été réalisés juste entre 1967 et 1975. Il y en a eu bien davantage jusqu'en 1996 avec les derniers essais nucléaires français menés sous Jacques Chirac. Question, la France a-t-elle une dette envers la Polynésie française à cause des essais nucléaires menés sur place? Morad.
La question, oui.
Oui.
Oui, forcément.
Bah, oui, pourquoi?
Parce qu'à partir du moment où on
Quelles
choisit un territoire...
Quelles conséquences concrètes sur place?
Alors, pour l'instant, on n'en est encore que dans des phases d'études, mais il y a des groupes qui se sont constitués, des collectifs qui se sont constitués, il y a des maladies qui ont été provoquées par les essais nucléaires, on le sait, il y a des cancers probablement, de la thyroïde, il y a tout un tas d'études qui aujourd'hui vont vers justement cette idée que les essais nucléaires ont eu des conséquences sur les populations les plus proches. Ouais. Il y a, mais vraiment, des collectifs qui se sont constitués pour essayer de demander justice dans un premier temps et ensuite, effectivement, d'avoir réparation. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'il a fallu quand même attendre 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est très très long. Et vous avez des gens là-bas, malheureusement, qui meurent avant même d'être entendus comme victimes. Mmh. Ils n'ont jamais été entendus comme victimes. On n'a jamais reconnu leur statut de victime. Ce que fait aujourd'hui Macron, le président Macron, il l'avait fait aussi pour l'Algérie, lorsqu'il y a eu aussi des essais nucléaires sur place. On connaît aussi la guerre qui a eu lieu là-bas. Il a aussi fait des pas. Mmh. On sent quand même que c'est un président qui essaye bon an, mal an, d'ouvrir enfin des vrais pans de l'histoire qui avaient tendance à être un peu fermés à double tour dans des coffres-forts. Il ouvre des portes et moi je trouve ça plutôt sain et je trouve très très bien pour les Polynésiens qui se battent encore aujourd'hui. Demain, ça sera la Martinique hein, sur le chlordécone.
C'est un
pesticide qui a été utilisé notamment pour la production des bananes et qui malheureusement a aussi impacté un certain nombre de populations.
Ouais, avec des taux de cancer qui sont très importants en Martinique, ça c'était un autre scandale sanitaire, on y reviendra. Je vous propose qu'on en parle avec un Tahitien qui nous écoute sur Sud Radio et qui nous appelle Aymeric. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur Sud Radio au 0826 300 300. Alors vous êtes de Tahiti, vous êtes en Île-de-France en ce moment. Comment vous l'avez vécu ce discours?
Bah écoutez, moi, je suis partie d'une génération qui n'a pas connu vraiment les essais nucléaires. Maintenant, c'est quelque chose qui traîne, qui fait débat, qui bien sûr alimente les certains politiciens dans leurs discours. Donc, je trouve que Emmanuel Macron a très bien fait d'en parler parce qu'encore dernièrement, tous les ans, on en parle hein, de ces essais et c'est important de reconnaître aujourd'hui, même si c'est tard, mieux vaut tard que jamais. On a aujourd'hui vraiment le recul. On voit qu'il y a de plus en plus d'études qui amènent des résultats qui prouvent que voilà, il y a beaucoup de maladies effectivement qui sont certainement liées aux essais nucléaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de fermer les yeux et puis avancer et puis penser toutes ces blessures qui ont marqué l'histoire. Donc voilà.
Après, tourner une page pour en ouvrir une autre, en tout cas, on aura
compris. Exactement.
Merci beaucoup, Aymeric, pour votre témoignage au 0826 300 300. Alaa Oukili. On a souvent, il y a un mot qui est très connoté dans la politique française, c'est le mot repentance. Est-ce que le président de la République a raison de reconnaître les torts ou les fautes du pays qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années et qui ont des conséquences tous les jours jusqu'à aujourd'hui?
Écoutez, moi je pense qu'il n'y a absolument rien de mal à rendre le roman national de plus en plus précis, dès lors qu'il tend à inclure l'histoire des Français, en fait. Et je m'explique, ce que je reproche, moi, à Emmanuel Macron, en général, et pas dans ce cas particulier, c'est que parfois, il essaie de faire coexister des mémoires qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres.
Exemple.
C'est-à-dire, quand il s'adresse à des descendants, ou des afro-descendants, comme on les appelle, bien français, nés sur le territoire français, qui n'ont absolument rien d'autre que la culture française à laquelle ils doivent appartenir et sentir appartenir, et il s'adresse à eux comme si c'était les vaincus de l'Algérie, en fait, ou les descendants des gens du FLN. Alors, on leur demande de, en même temps, aimer un pays et aimer et haïr un pays, en fait, parce que il aurait martyrisé, ou il a martyrisé leurs grands-parents, et en même temps, ben...
Ça, c'était sur l'Algérie. D'ailleurs, c'est drôle, mais c'est vrai. Vous avez raison, Mourad, c'est la deuxième fois qu'on reparle de l'Algérie, ce qui est quand même aussi, d'ailleurs, la preuve que c'est un traumatisme français, cette guerre d'Algérie. Si je reviens sur Tahiti, alors...
Et bien sûr, Tahiti, on est bel et bien sur le territoire français, et c'est le gouvernement, des gouvernements, d'ailleurs, qui se sont succédés, qui ont effectivement mené des essais nucléaires qui ont causé énormément de tort non seulement aux anciens, mais aujourd'hui, ça continue jusqu'à aujourd'hui, et c'est terrible quand
on
entend...
Donc il a raison
de
le retenir.
Mais je voudrais juste insister, c'est terrible quand on entend que des victimes n'ont même pas pu se faire reconnaître en tant que victimes, et qu'elles ont souffert, je suppose, dans d'atroces souffrances, des conséquences de leur cancer.
De l'irradiation.
C'est super, et j'ajoute, c'est très bien aussi que la métropole en entende parler. Voilà, c'était
parce qu'on n'en parlait pas beaucoup.
Absolument.
On vous mettra d'accord là-dessus, Mourad ?
On n'en parle jamais assez. C'est vrai que malheureusement, ce sont des territoires isolés, très loin. On ne va pas rappeler la distance entre aujourd'hui la Polynésie et la France.
On l'imagine.
Et la continuité territoriale dont on parle tant, malheureusement, il y a toujours cette rupture. Et donc, évidemment, la Polynésie française, moi je rentre de Saint-Pierre-et-Miquelon, on est en France, et pourtant on est dans un autre endroit du globe qui est l'Amérique du Nord, et c'est un des seuls territoires français.
C'est vrai. C'est tout ce qu'on a gardé de la Nouvelle-France à la fin de la guerre de 7 ans, Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais on n'a pas fait d'essai nucléaire sur place. Heureusement, d'ailleurs, on continue d'y pêcher. Quoi qu'il en soit, on vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que la France a vraiment une dette envers la Polynésie française suite aux essais nucléaires? Comme tous les sujets mémoriels, c'est compliqué en France. Vous répondez non, mais à 53% d'entre vous, donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, à 47%. Restez sur Sud Radio. Dans un instant, place à Grâce Le Plat et au roi de l'info et la reine de l'info, justement. On va réviser l'actualité insolite avec vous.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h, avec Alaa Oukili, avec Jean Terlon, Mourad Aïtabouche et Grâce Le Plat qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Grâce.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous.
Allez avec vous, bonsoir. On va jouer.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Au 0826-300-300.
Et avec nous, Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Bonsoir Marie-Christine.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bienvenue.
Bonsoir.
Alors, pour commencer, Marie-Christine, avec quelle vraie voix voulez-vous jouer ? Jean Terlon, Mourad Aïtabouche ou Alaa Oukili ?
Bonne question.
Ça dépend, vous voulez gagner ou pas ?
Oui, bien sûr, je veux gagner.
Allez, au pif.
Le deuxième, parce que j'ai pas retenu les noms.
Jean Terlon, Mourad Aïtabouche ou Alaa Oukili?
Le deuxième, c'est Mourad Aïtabouche.
Eh bien, ce sera Mourad.
On rappelle les règles.
Alors, c'est parti. Marie-Christine, je vais vous poser trois questions. C'est vous qui commencez. Si vous vous trompez, les vraies voix répondent. Et si c'est Mourad Aïtabouche qui gagne, eh bien, vous remportez le point. Alors, première question. On est en plein Jeux Olympiques, donc j'ai trouvé opportun de parler de défis. Plus vite, plus haut, plus fort, hein, c'est la devise olympique. Alors certains font 400 mètres de natation en 4 minutes et d'autres ont des objectifs un petit peu moins extravagants. Cet Anglais, par exemple, a décroché le record du monde de superposition de M&M's. Il s'inscrit même au Guinness des records. Selon vous, Marie-Christine, combien de M&M's a-t-il empilé ? Réponse A, 500. Réponse B, 50. Réponse C, 5.
Mon Dieu.
les uns sur les autres, sur une seule colonne, c'est ça la question.
Exactement.
Ouais.
Ne faites pas ça chez vous.
50. Mauvaise réponse, les vraies voix.
Non, 500 évidemment. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt.
Jean Terlon a raison, c'était 5.
Mais quel record ridicule.
J'essaie de le faire quand j'étais gamin, ça marche pas.
Mais essayez déjà de le faire avec 2.
Ah oui, ça deux, doit c'est pas être
facile. Ah oui, oui,
non mais je plaisante, 500, c'était impossible.
Un point donc
pour les vraies voix.
Ça me paraissait invraisemblable aussi, mais bon.
Oh ben voilà. Écoutez, il faut des records pour tout. Deuxième question,
Marie-Christine. Oui. On parlait donc de M&M's, alors on va rester dans la gastronomie.
Ah oui.
Et on passe cette fois. On passe cette fois au salé, avec une recette aux petits oignons. Le chef cuisinier belge Nicole Decloute a inventé, roulement de tambour, les moules frites véganes. Pas de moules donc. Selon vous, Marie-Christine, par quoi remplace-t-il les moules ? Réponse A, de la pomme de terre. Réponse B, des courgettes. Réponse C, des carottes.
Un indice, vous devriez regarder Jean. J'ai lu la réponse dans ses yeux.
Moi, j'hésite entre la courgette et la carotte. Moi, je dirais la courgette.
Oui. Ouais, je vous ai vu acquiescer sur la courgette.
Allez-y, Marie-Christine, c'est vous la première.
Moi, je disais la carotte parce que à cause de la couleur.
Ah oui.
Impossible. Mm-hmm. C'est bien pour ça que je l'ai mise dans les possibilités, mais c'est pas la bonne réponse.
Gustativement, bon, c'est plus proche.
Alors, forcément, la courgette.
Eh bien non.
Sans blague.
La pomme de terre.
Non. De la pomme de terre. Exactement.
Des moules frites, donc des patates et des frites.
Des patates et des patates.
Jean-Marie, comment fait-on quand il n'y a pas de bonne réponse?
Mais quand, mais non, c'est, on est d'accord. C'est, non, mais... ça a pas l'air ragoûtant, on est d'accord.
Alors en fait, pour vous expliquer, donc, les coquilles de moules sont constituées à partir de purée de pommes de terre.
Ah oui.
Elles sont ensuite farcies avec des champignons shiitake qui ont mijoté dans un bouillon d'ail.
Vous nous avez pas parlé des champignons.
Non,
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 mais c'est de la triche.
Sinon, autant vous donner la réponse.
Non, mais c'est de la triche.
Moi, je demande à Maître Capulot d'intervenir.
Mais c'est moi qui vais intervenir. Et je donne le point à Marie-Christine pour le principe parce qu'il manquait les champignons. Dernière question.
Vous avez de la chance, Marie-Christine. 1-1 donc. Troisième.
Merci pour votre indulgence.
Troisième et dernière question. Alors, peut-être avez-vous entendu, on en a parlé hier dans Les Vraies Voix, les joueuses norvégiennes de beach handball doivent payer une amende de 1 500 €. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles ont mis des shorts de sport plutôt qu'un bikini lors du championnat d'Europe. Alors, ça a fait à réagir dans le monde entier, jusque chez des stars. Une, en particulier, a proposé de payer leur amende. Elle a écrit sur Twitter « La Fédération européenne de handball devrait écoper d'une amende pour sexisme. Bravo les filles !» Selon vous, Marie-Christine, qui est cet ange gardien ? Réponse A, l'actrice Emma Watson. Réponse B, la chanteuse Pink. Réponse C, Michelle Obama.
La chanteuse
Pink. Bonne réponse.
J'ai l'impression, Marie-Christine, que nous avons gagné, mais c'est votre victoire d'abord.
C'est une magnifique remontada, ma chère Marie-Christine.
Donc c'est la nôtre.
Menée 1-0, Marie-Christine revient et gagne 2-1.
Exactement, comme à la finale de l'Euro 2000 pour l'équipe de France. On vous embrasse très fort, Marie-Christine.
Et moi aussi, je vous embrasse.
Et restez bien sur Sud Radio. Bonne vous nous soirée. Rappelez quand vous voulez au 0826-300-300. Restez sur Sud Radio. On revient dans quelques minutes avec Les Vraies Voix Sud Radio. On va reparler du pass sanitaire, justement, mais surtout du vaccin à l'école. Est-ce que c'est injuste d'isoler à domicile les élèves cas contact dans les lycées et les collèges ? C'est ce qu'a décidé le ministre de l'Éducation nationale. Vous votez, vous nous appelez, à tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les Vraies Voix Sud Radio, avec le restaurateur Jean Terlon, jusqu'à 19h, vice-président de la branche restauration de son syndicat Lumi. Toujours la première heure en studio dans Les Vraies Voix, ça se passe bien, Jean ?
Ah, c'est excellent.
C'est excellent,
venez
on reviendrait.
Venez tous, c'est très bien.
Il n'est pas venu avec le foie gras du Gers, hein. C'est il est quand pas... même dommage,
non, mais
Gersois.
Il y a un nouveau foie gras synthétique là, qui va sortir.
Oh, ça s'appelle
le faux gras.
Ça s'appelle le faux gras.
Ah non, c'est encore mieux, il y a un foie gras en laboratoire. En
et sous vide.
Parlez pas de ce qui fâche, vous venez de casser un mythe. J'aurais toujours un doute si vous m'invitez à manger un jour.
Ah non, jamais.
Ala Oukili est avec nous, journaliste Sud Radio. C'est pas sa première des Vraies Voix en studio, c'est sa première semaine.
Voilà, exactement.
La
et
table
tout se
est
passe
bonne.
Pour le mieux. Parfait.
Bon, c'est très bien. Morad Aitabou, je connais la maison comme sa poche. Hein. Il est presque ici chez lui. Réalisateur de la série Saletan pour la planète.
Ah, justement, on vous emmène ce soir dans le golfe du Morbihan.
Ouais. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans le golfe du Morbihan?
Ah bah dans le golfe du Morbihan, on va découvrir un Eldorado, un nouvel Eldorado, puisqu'aujourd'hui l'INSEE parle probablement d'un transfert de population. 250 000 personnes qui, à l'horizon 2040, pourraient résider dans le golfe du Morbihan. Donc c'est énorme. 250 000 personnes.
Comment les accueillir?
Pourquoi? Parce qu'on a un effet induit du réchauffement planétaire. La Côte d'Azur va devenir difficile à supporter, la chaleur, surtout la canicule l'été, alors que dans le golfe
du Morbihan... Est-ce que la Bretagne sera la prochaine Riviera? En tout cas, vous verrez ça sur France 5 à cause du changement climatique dans Sale Temps pour la Planète ce soir à partir de 21h. Documentaire réalisé
à
20h50. Pardon, documentaire réalisé par Morad Aitabouche. Nous sommes le 28 juillet, chère Vraie Voix. C'est l'anniversaire d'une date historique. Désolé pour ce bruitage extrêmement gore. C'est l'anniversaire de l'exécution de Robespierre. On parlait de l'histoire et de la mémoire. Justement, s'il y a un personnage important mais controversé dans l'histoire de France, c'est Robespierre. Image négative ou positive pour vous en une phrase et en interro surprise? Morad, débrouillez-vous. Robespierre.
J'adore l'histoire française, j'adore Robespierre.
Vous adorez Robespierre?
Non, mais c'est comme oui tous ces grands personnages. Mais non, mais bon, il y a toujours l'envers du décor. Mais bon, c'est, voilà.
L'envers
c'est
du décor. Pour moi. Qu'est-ce que vous êtes pudique? Alors là, vous vous enfoncez, mais allez-y. Bon, ok, image positive, Jean Terlon, Robespierre, héros ou démon?
Non, moi, la Révolution, je trouve ça atroce. Ce qui est bien, c'est qu'après, il y a Napoléon qui est arrivé.
Oui. Bon, vous êtes on est tombé sur un bonapartiste. Oui. Vous avez le droit. On est en démocratie.
Et deux bonapartistes.
Sans blague.
Absolument.
Voilà, ça fait beaucoup.
Okay. Eh ben, écoutez...
Du coup, vous n'êtes pas robespierriste. C'était l'anniversaire.
Je suis révolutionnaire, mais je ne suis pas robespierriste.
Mais pas à ce point-là, en tout cas. Vous êtes plus pour les coups d'État. On aura remarqué ça.
Voilà.
Ça tombe très bien. On va parler d'un autre coup d'État dans quelques instants avec Morad Aitabouche. On fera un tour du côté de la Tunisie. Mais parlons aussi du grand débat des vraies voix à partir de 18h30. Est-ce injuste d'isoler à domicile les élèves non vaccinés qui sont cas contact dans les collèges et les lycées? C'est la décision annoncée par Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, vous soyez prof d'ailleurs ou parent d'élèves, ça vous concerne aussi. Tout de suite, je le disais, direction la Tunisie.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
On ne perd jamais son temps dans les vraies voix. Sud Radio, on en parlait hier dans les vraies voix. Le président tunisien Kais Saied, justement, qui a limogé son premier ministre, qui a fermé pour un mois le parlement tunisien, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs alors même que la population manifestait contre la majorité et le gouvernement. Question, Morad Aitabouche, est-ce que c'est le premier régime à tomber à cause de la crise sanitaire?
Il n'est pas encore tombé. Le président est hélas encore là, dans la mesure où il a
décidé de prendre... Le Parlement est fermé par l'armée.
Oui, mais il a décidé de prendre les pleins pouvoirs. C'est ça qui est aujourd'hui scandaleux. Et personne ne se rebelle, personne ne dit quoi que ce soit. On est quand même dans un pays où, malheureusement, on est dans une dictature. Il faut quand même dire les mots. Quand on entend dans les manifestations un peu partout en France, parce que Emmanuel Macron a décidé de rendre le vaccin, non pas obligatoire, mais en tout cas de forcer la vaccination, on entend les gens qui parlent de dictature. Mais je les invite à aller dans des vraies dictatures. Là, aujourd'hui, ce qui se passe... Vous savez combien il y a eu de morts hier en Tunisie? Près de 3000 morts.
3000 ?
3000 morts. C'est l'un des chiffres les plus, meurtriers depuis la crise du Covid et de cette pandémie. On devrait
3000 morts
aujourd'hui,
du coronavirus.
Voilà,
hier.
On devrait aujourd'hui poursuivre le président tunisien pour non-assistance à personne en danger, à population en danger. Pourquoi ? Parce que les Tunisiens aujourd'hui n'ont pas accès aux vaccins. Ça, c'est pour moi scandaleux.
Avec un changement quand même, je le disais aussi, la France a fait don d'ailleurs de 500 000 doses de vaccin Janssen. C'était ce week-end avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Ça permet
encore
de vacciner.
Faut-il avoir les moyens et la logistique et surtout les gens pour distribuer ce vaccin. Encore une fois, c'est une vraie question de logistique. C'est une question de logistique. Bah oui, quand on entend tout à l'heure Pfizer qui va faire 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le vaccin et non plus 26 milliards.
Ça
on
augmente.
Peut se dire que c'est 7 milliards. Il y a un certain nombre de populations un peu partout dans le monde. Et je le disais aussi tout à l'heure à propos de l'obésité qui était très discriminante parce qu'elle ne touche que les populations les plus pauvres.
Et bien le vaccin aussi.
Le vaccin, malheureusement, sont les pays riches qui ont accès au vaccin.
Premier
et les
gouvernement,
pauvres, les populations les plus pauvres n'y ont pas accès malheureusement.
Première crise politique provoquée par le coronavirus. la Tunisie. Premier gouvernement à tomber, fermé de force avec l'armée devant le Parlement.
Et le président qui décide, il n'est pas encore tombé.
À la Oukili.
Disons que c'est un petit peu l'allumette qui a
le
tout.
Le Covid
qui... Oui, absolument. C'est un catalyseur de quelque chose qui devait arriver depuis déjà bien longtemps. Depuis que le faux printemps arabe, certains l'appellent maintenant l'hiver arabe, a soufflé en Tunisie, on s'est rendu compte quand même maintenant que c'était une révolution d'islamistes, plutôt une révolution déguisée, un coup d'État islamiste déguisé en révolution.
Alors là, je dis non.
Elle est complètement faux. Vous allez répondre, il faudrait qu'elle termine.
Mais non, mais c'est complètement faux.
Et vous allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord dans un instant.
Ça, il n'y a pas de problème.
À la Oukili.
Le pouvoir a été quand même bien gangréné par les frères musulmans. La situation du pays a quand même vu des gens rentrer carrément, des gens radicalisés. Ça, j'ai adoré ce phénomène. Il y a des gens quand même radicalisés qui sont rentrés d'Europe vers la Tunisie parce qu'ils s'y sentaient tout de suite beaucoup mieux parce que Ennahda s'est bien installé.
Vous parlez d'Ennahda qui est le parti aujourd'hui majoritaire qui est inspiré par les frères musulmans aujourd'hui.
Absolument. Je voudrais juste rebondir d'ailleurs sur ce qu'a dit notre cher camarade Mourad. Oui, absolument. Tout à fait. Sur le fait que les gens, personne ne dit rien. Les images que j'ai pu voir dans les médias arabes montrent plutôt des gens qui sont très contents et qui marchent dans les rues et que, malgré la crise sanitaire catastrophique, qui sont très contents que le président ait répondu à leur appel en éliminant temporairement la prise ou plutôt l'emprise des frères musulmans sur le Parlement. Cela dit, moi maintenant je vais donner mon avis parce que là je donnais juste des faits que moi j'ai pu constater. J'ai très peur de ce genre de réaction de la part d'un président comme celui de la Tunisie parce que je n'oublie pas ce qui s'est passé en Égypte. On a pu voir un président comme Al-Sisi qui a fait un coup d'État en disant « je vais éliminer les frères musulmans » alors que Morsi avait été élu de façon démocratique.
Comme Ennahda, pardon.
Absolument, exactement. Et puis hop, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis en train d'éliminer tous les leaders, en contrepartie, je suis en train en même temps de céder aux revendications de leur électorat et il a radicalisé totalement l'Égypte aujourd'hui qui a mis les femmes sous tutelle et ça je voudrais le dire, ça ne fait que quelques semaines et c'est dramatique, personne n'en parle. Aujourd'hui en Tunisie, il y a un très grand risque effectivement que ça tourne à la dictature, avec un président qui est en train de prendre les pleins pouvoirs. Mais le problème demeure que apparemment une partie du peuple réclame que les frères musulmans ne soient plus là. Donc peut-être un référendum de nouvelles élections législatives.
D'abord sur l'origine du printemps arabe en Tunisie. Je rappelle que c'est un jeune qui avait les pires difficultés pour nourrir sa famille, qui avait décidé de vendre d'une manière complètement informelle, quelques fruits et quelques légumes. La police est intervenue, mais ça c'était révélateur de quoi ? D'une situation qui existait sous Ben Ali, avec au sud une population qui était discriminée, dont malheureusement le président n'avait pas pratiquement, il les méprisait. Et au nord, donc vraiment la partie la plus riche, où là, pour le coup, on développait, enfin, on essayait de faire en sorte de développer, etc. Donc, il y a eu, là, pour le coup, une vraie révolte populaire qui est partie du sud, qui est partie de cette partie de la Tunisie qui, malheureusement, a toujours été méprisée par les pouvoirs en place. Et ils se sont rebellés. À partir de ce moment-là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a voulu ouvrir la démocratie aux ennemis de la démocratie. À qui ? Évidemment, à Ennahda. Mais la réalité, c'est qu'au départ, ça reste une révolution populaire. Et le départ, c'est-à-dire vraiment ce qui a déclenché cette révolution, c'est vraiment le ras-le-bol d'une population qui était méprisée. C'était celle du Sud face à la population du Nord.
C'est comme ça commence d'ailleurs la révolution.
Aujourd'hui, malheureusement, quand je dis qu'on ne donne pas la liberté aux ennemis de la liberté et la démocratie aux ennemis de la démocratie, malheureusement aujourd'hui, c'est un fait, la Tunisie n'est pas prête. Puisque, encore une fois, il y a certains pays où la panacée universelle qu'on croit, nous, en Occident, qui serait la démocratie, il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut pouvoir, partout, chez les jeunes, chez les moins jeunes, expliquer ce qu'est la démocratie. C'est un pouvoir. L'urne, le vote, est un pouvoir à condition de l'utiliser à bon escient. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Tunisiens ont voté pour Ennahda. Ennahda, c'est qui ? C'est un parti islamiste qui, malheureusement, aujourd'hui, alors que en Tunisie, les femmes étaient quand même les plus émancipées du Maghreb, aujourd'hui, il y a un vrai recul de leur situation.
Vrai. Alors, donc c'est Jean Croix-Pluret là-dessus d'ailleurs, parce que le président qui a commis ce coup de force contre le parti islamiste est aussi un juriste
et contre les institutions.
Est aussi un juriste qui considère que les femmes ne doivent pas hériter autant aussi bien que les hommes en Tunisie. C'est un des débats qui existe sur la nature de l'héritage et l'égalité des femmes et des
en
hommes.
En Algérie, il y a le code de la famille voilà. qui est aussi ça, c'est inique.
Quoi
non,
qu'il
mais c'est
soit.
La même chose. On est dans les mêmes situations au Maroc.
Bref, on est bien en France finalement malgré le pass sanitaire.
Ah mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour tous ceux. Non mais encore une fois, Jean-Marie, tous ceux qui manifestent aujourd'hui, oublie que nous sommes dans une démocratie.
Quoi qu'il en soit, les vraies voix Sud Radio reviennent dans un instant, chers amis. Et dans quelques minutes, je le rappelle, on parlera du pass sanitaire. Et on parlera surtout de l'isolement forcé des élèves non vaccinés qu'à contact au collège et au lycée. Est-ce que c'est injuste ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. C'est aussi la démocratie sur Sud Radio. Vous votez comme vous voulez. A tout de suite. C'est normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, jusqu'à 19h, avec celui que vous entendiez déjà, qui s'appelle Morad Aitabou. Jean Terlon est avec nous, le restaurateur Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Dans quelques minutes, le grand débat des vraies voix, mais tout de suite, nous revenons sur un rapport accablant qui vise les établissements Sciences Po, les instituts d'études politiques. Il y en a plusieurs tout autour de la France. Vous avez entendu parler de ce mouvement Sciences Port, sur le modèle de Balance ton port. Notre invité, tout de suite, est une de ses initiatrices. Bonsoir à vous, Anne Toumazoff.
Bonsoir.
Vous êtes activiste, vous êtes autrice, notamment d'ouvrages anciennes étudiantes de Sciences Po Toulouse. Vous avez créé ce mouvement, ce hashtag Sciences Port, avec des témoignages d'anciennes élèves de Sciences Po qui avaient été victimes de viols, d'agressions sexuelles durant leurs études. Je le disais, une enquête a été menée. Elle est absolument accablante pour les différents campus de Sciences Po autour de la France. Ça va des mains aux fesses, des blagues salaces, des insultes sexistes, jusqu'au viol. Est-ce qu'il y avait, ce sera ma première question, une culture du viol complètement admise dans les établissements Sciences Po ou pas ?
À mon sens, tout à fait. D'après ce que j'ai pu recueillir, en tout cas, et tout ce dont j'ai pu me rendre compte même par la suite, quand on a vu comment les écoles ont accueilli ces révélations, je le pense. Juste peut-être pour être au point avec tous les auditeurs qui ne savent peut-être pas avec exactitude ce que c'est que la culture du viol et pourquoi
la définition que vous en donnez.
Mais en fait, c'est simple, ça tient à une récurrence d'agression sexuelle et ça tient à du silence. Et là, en l'espèce, à Sciences Po, on a eu ça totalement. C'est-à-dire
donc
que,
l'omerta face à des agressions sexuelles ou des viols qui se répètent.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre très conséquent d'agressions sexuelles et de viols. Là, le rapport ne s'étend que de 89. Mais c'est pour d'autres raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir ensuite. Et puis, il y avait un espèce de silence complice de tous les élèves autour qui voyaient aussi ce qui se passait, parce que ça arrivait beaucoup dans des circonstances festives, donc tout le monde était un peu au courant. Et enfin, surtout, un refus des administrations de traiter tous ces cas.
Ce rapport d'enquête, en tout cas, a fait remonter des faits qui sont susceptibles, je cite, de recevoir une qualification pénale. Vous avez 89 faits qui sont remontés aux directions des établissements. Vous en avez 69 qui pourraient recevoir une qualification pénale et seulement 38 qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur. Ça veut dire que tous les autres, on s'en est pas occupé.
Bah, ce qui s'est passé, moi je pense en tout cas, encore une fois, avec les centaines de témoignages que j'ai pu recevoir et ce dont ça faisait état, c'est que les élèves à qui il arrivait des choses, comme très souvent avec justement ce qu'on appelle cette culture du viol, ne se sentaient pas forcément légitimes à parler de ce qui leur était arrivé. Quand elles se sentaient légitimes, elles se retrouvaient face à un premier mur, c'était les camarades qui disaient « mais non, tu exagères ». Second mur, c'était les administrations qui allaient leur dire écoutez, non, là, faut pas faire de vagues. Il y a des élèves qui ont été menacés d'être
exemptés. Il y a vraiment eu des responsables de Sciences Po, des directeurs qui ont envoyé dans les cordes des victimes de viol en leur disant fais pas de vagues, même si tu as été violé.
Oui, dans tous les IEP. J'ai des témoignages qui font état de ça dans absolument
qui
tous les IEP.
Qui racontent texto cette chose-là. Oui. Je vais voir mon responsable, j'ai été violé et on me dit de me taire.
Oui, il y a des élèves qu'on a même menacés de plainte. On leur a menacé de porter plainte contre elle, en l'occurrence, si elle faisait du bruit là-dessus. Oui, tout à fait.
Et du coup, elles n'ont pas porté plainte.
C'est ça qui a été très violent.
Non. Restez avec nous, en tout cas. Anne Toumazoff, nous sommes avec les vraies voix sur Sud Radio, Morad Aitabou, Jean Terlon, Ala Oukili. Ala, je vous ai vu tiquer quand j'ai prononcé ce mot culture du viol. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le principe ou avec le... Là, vous n'avez pas la même définition.
L'orthographe n'est pas terrible.
Alors, culture du viol, j'ai énormément de mal avec, déjà parce que c'est toujours dirigé contre une catégorie de la population sans distinction de comportement qui pourrait sortir de la norme, et c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, ce que je raconte, c'est que généralement, les hommes sont tous des violeurs, et c'est ça que ça veut dire pour moi, culture du viol, et c'est ce que j'entends souvent.
C'est comme ça que vous voyez le mot, vous, en tout cas.
C'est ce que, oui, c'est ce que j'entends souvent. Maintenant, il y a aussi culture du viol, et j'entends aussi infantilisation, et d'ailleurs autre chose m'a fait tiquer, donc je continue là-dessus. On va à l'administration, on va au professeur, on va voir les camarades, mais pourquoi personne ne va à la police, en fait?
Moi, je me demande. C'est si facile que ça de porter plainte quand vous êtes victime de viol?
Mais ce n'est pas une question d'être facile ou difficile. C'est une question qu'un État nous permet d'obtenir justice. Et je ne comprends pas pourquoi, dans une école où il y a une élite supposée diriger le pays depuis des décennies, ces gens-là, comment ils ont pu rentrer dans cette école sans que.
Les violeurs, vous parlez en tout cas, les agresseurs sexuels.
Non, je ne parle pas des violeurs, je parle de tous ces étudiants de l'IEP qui discutent entre eux de viol, d'agressions sexuelles, etc.
Sans que ça remonte jusqu'à la justice.
À aucun moment, quelqu'un dira à sa camarade, va porter plainte, je t'accompagne, je te soutiens. Ouais. Pourquoi ces collectifs ne se sont pas organisés pour aller dans les commissariats?
Anne Toumazoff.
Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas sorti de l'école.
Pourquoi ça s'est sorti si tard, et pourquoi effectivement des camarades de classe, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, n'ont pas aidé plus tôt? Eh bien, ces femmes agressées à porter plainte.
C'est effrayant.
Oui, c'est une question qui revient très souvent et je la comprends très bien. Je vais juste prendre 10 secondes pour juste répondre par rapport à la culture du viol, qui est souvent vue comme quelque chose d'assez misandre, etc. Il n'est pas question de dire, en tout cas moi je ne suis pas catégorique à ce point, de dire que tous les hommes sont des violeurs.
Merci.
Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'une immense majorité des violeurs sont des hommes. En l'occurrence, 96% des cas établis de viol en France sont commis par des hommes. Donc voilà. Après, oui, c'est pas toujours des hommes, c'est parfois sur des hommes. Mais en tout cas, les faits sont là, mais il n'est pas question, encore une fois, de dire que tous les hommes sont des violeurs, ça n'aurait absolument aucun sens.
Et il y merci pour la précision. C'est déjà ça. Ensuite.
Ensuite, concernant donc pourquoi les personnes ne portent pas plainte, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, en fait. Quand une victime vient de subir qu'elle a subi, il y a quand même des états de sidération, il y a des états de choc, il y a plein de choses psychologiques. J'ai pas forcément les compétences de rentrer là, enfin en tout cas de pouvoir vulgariser ça en quelques mots.
Et pourquoi les camarades n'ont pas pu les aider? C'était la question d'Ala.
Mais en fait, il y a des camarades qui encourageaient et tout, mais il y a toujours le libre arbitre de la personne, et une personne qui s'est retrouvée face à l'opprobre souvent de ses camarades, puis derrière face aux résistances de l'administration.
Ça va décourager.
Puis on est face à des élèves qui parfois, enfin là c'était des élèves très jeunes en l'occurrence, c'était souvent dans les processus d'intégration, on est face à des élèves qui ont parfois sauté des classes, donc qui sont mineurs, qui sont seuls dans les villes où ils ne connaissent personne.
Et qui avaient peur de ne pas s'intégrer. Et qui avaient besoin de s'intégrer, qui avaient peur de ne pas pouvoir s'intégrer.
C'est ce qu'on entend souvent dans les témoignages des femmes ou des hommes qui ont été victimes de viol. Elles ont du mal à aller porter plainte. C'est quand même.
En tout cas, la libération de la parole qui a été longue et difficile. Merci beaucoup, Anne Toumazoff, pour votre éclairage. Activiste, autrice et initiatrice de ce hashtag Science Sport. Restez sur Sud Radio, les amis. Dans un instant, nous parlons. Mais finalement, ce sera beaucoup plus joyeux. Tiens, est-ce que c'est injuste d'isoler les élèves cas contact des collèges et des lycées qui ne sont pas vaccinés? C'est la décision du ministère de l'Éducation nationale. Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio qui ont fait leur rentrée des classes, si j'ose dire, autour de la table du studio de Sud Radio. Jean Terlon, le restaurateur qui fait sa rentrée, qui n'a pas envie de refermer, il a raison. Nous sommes avec Ala Oukili qui est journaliste, nous sommes avec un autre journaliste qui est aussi réalisateur, Morad Aitabouche. Tout de suite, on retourne à l'école, les amis.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Que se passera-t-il dans une classe de collège ou de lycée si jamais un élève, un seul, est dépisté positif au coronavirus à la rentrée? Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué le processus ce matin.
S'agissant de ce qui se passe quand il y a un élève qui est contaminé. Vous vous souvenez que cette année, au bout de plusieurs mois, on a décidé que c'était au bout d'un cas de contamination qu'on fermait une classe. Donc on maintient cette règle pour l'enseignement primaire, puisque les élèves ne sont pas vaccinés. Donc quand il y aura un cas de contamination, on fermera. Et puis s'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés.
mais pas les élèves vaccinés. En d'autres termes, eh bien, on isolera à domicile, on mettra en cours par correspondance, ou plutôt en visioconférence, pardonnez-moi, les collégiens et les lycéens qui n'auront pas été vaccinés, sauf qu'ils peuvent le faire tout seuls, il faut l'accord de leurs parents. Est-ce que c'est injuste? C'est la question qu'on vous pose, vous répondez oui. À 86% d'entre nous, on accueille notre premier invité, Claire Guéville. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale du syndicat SNES-FSU en charge des lycées. Vous êtes professeur d'histoire géo dans un lycée de Dieppe, c'est dans la Seine-Maritime. Collège ou lycée? Lycée, vous me dites-vous.
Lycée, oui.
Donc vous serez concerné aussi. Comment vous question pratico-pratique. Imaginons que vous ayez un cas positif. Il est isolé dans votre classe. Ensuite, vous découvrez qu'il y en a 4 qui ne sont pas vaccinés. Vous allez faire cours aux 2 en même temps, en classe d'une part et en visio d'autre part.
Ben déjà, j'aimerais savoir, ben, cette année, moi, je n'avais aucune connaissance des noms, des cas contacts. J'avais des élèves qui apparaissaient, disparaissaient, mais je ne savais pas pourquoi, parce que vous savez qu'il y a un principe, c'est quand même le secret médical.
Oui, enfin, on a fermé des classes, on se doutait bien pourquoi on les fermait, Guéville.
Non, parce que quand on était en lycée, je vous rappelle quand même que nous étions tous masqués. Ouais. Et qu'à partir du moment où nous étions tous masqués, il n'y avait pas de cas. Le principe, c'est qu'il n'y avait pas de cas contact dans le cadre de la classe. Sauf que, vous savez qu'en lycée, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de.
C'est vrai. C'était la théorie, voilà. Ça. La pratique, ça
n'a pas
été ça.
C'était la théorie. Hein. Dans la pratique, il y a eu des fermetures de classe qui se sont accélérées à partir du moment où la mise en place de tests a été davantage faite. Mais sinon, dans les faits, la détection des cas contacts, déjà, ça posait un problème. Donc, en fait, ma réaction, moi, je voudrais vous faire part de ma réaction quand j'ai entendu les propos de mon ministre. Ma réaction, c'est comment c'est possible? Comment on va faire? C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que cette déclaration sur l'éviction, parce que c'est bien ça le mot qu'il a prononcé, il a dit que les élèves non vaccinés évincés s'ils étaient cas contact. Je me suis dit, mais comment c'est possible, matériellement possible, puisque déjà nous avons eu toutes les peines du monde à connaître la situation sanitaire dans les établissements, que c'était extrêmement compliqué à gérer et que les enseignants faisaient comme ils pouvaient. Et moi, ce que je trouve très dommage, j'ai l'impression vraiment que ce mot masque une réalité, c'est-à-dire que cette réalité, c'est qu'il n'y a aucune mesure véritable pour garantir la continuité pédagogique, la continuité des cours dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que rien n'a été fait concrètement pour garantir des cours en présentiel de façon continue.
En tout cas, il n'est pas prévu de garantir, d'offrir des cours en présentiel à des cas contacts non vaccinés. C'est une manière aussi de pousser leurs parents à vacciner les enfants, justement, parce que sinon, ils vont devoir les garder à la maison, si j'ai bien compris. Jean Terlon, vous êtes restaurateur. Vous préférez quel casse-tête? Le casse-tête des restaurateurs ou celui de l'école?
Je crois qu'on est tous les deux dans le même club des casse-têtes. Et je trouve
dans la tête de casse-tête.
Ouais, je suis pas même si on est du sud-ouest, mais je trouve quand même que sûrement pour un élève qui va être exclu, le mot est même pire que ça.
Évincé,
ça va être hyper traumatisant, je trouve quand même, parce qu'il y a une éviction de la classe, de ses copains, de ses amis, des cours. Et effectivement, madame, elle a les mêmes interrogations que nous.
Cela étant dit, vous allez... c'est pas vous qui avez décidé, mais vous allez appliquer le pass sanitaire dans les restaurants.
Oui.
Ben vous allez évincer aussi les clients.
Oui, mais évincer un adulte, c'est moins traumatisant. C'est je pense qu'un élève, moi, je serais...
Donc vous trouvez ça trop dur?
Oui, je trouve ça brutal, comme toujours.
Moi, je trouve ça d'autant plus grave que la plupart des élèves n'ont pas le choix de se vacciner ou ne pas se vacciner. Pour la plupart, ce sont les parents qui décident.
Entre 12 et 18 ans, ce sont les parents qui décident.
J'ai bien vu qu'à partir de 16 ans, on réfléchissait à donner le droit aux élèves de décider par eux-mêmes de la vaccination. Je ne suis pas très favorable à cela parce que je vois qu'il y a de plus en plus de politiques qui tendent à disloquer la famille nucléaire dans ce pays et là mettre
les
enfants en conflit avec leurs parents.
Okay.
Et puis, j'ai vu aussi que maintenant, un parent pouvait décider si l'autre n'était pas d'accord.
Oui,
ça
absolument.
Va être la guerre. C'est
être
complètement
compliqué.
Fou. Et j'ajoute...
Le pass sanitaire,
et j'ajoute que C'est quand même très très grave en termes de politique, de communication sur les mesures barrières, etc. De ne pas arrêter de dire on va finalement les personnes cas contact, adultes là, hein, ouais. qui sont cas contact, bah, si elles sont vaccinées elles ne vont pas être isolées contrairement aux autres, alors qu'elles font quand même circuler voilà. le virus, peu ouais. importe la charge d'ailleurs.
Mais les élèves,
et puis
oui.
les élèves, on va leur faire aussi la même chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On continue de faire croire que quand on ouais. est vacciné, on est protégé et les autres ne risquent rien. Ouais. Oui, on non, est
on
plus,
est protégé
mais on n'est pas totalement.
Mais pas pour les mais autres.
Non, on n'est pas.
C'est quand même Morale et ta bouche.
C'est quand même de la part de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation ouais. nationale, qui manie les mots mmh. normalement avec pertinence, utile. Utiliser le mot éviction.
Ouais. Il a évincé
Moi,
la délicatesse.
Ça scandaleux. Oui. C'est honteux. Pardon de le dire, mais oui. éviction, ça veut dire qu'effectivement, c'est une sanction pour l'élève. Mmh. Or, Alain a bien fait de le rappeler, l'enfant, lui, entre 12 et 18 ans, n'a pas le choix. Ce sont ses parents qui décident. Un. Deux, on va être encore dans une situation de discrimination. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où cet enfant n'a pas été vacciné, il va aller à la maison, en télétravail. Est-ce qu'il a un ordinateur ? Est-ce qu'il a le Wi-Fi ? Les parents sont avec lui. Est-ce que les professeurs vont prendre le temps ?
Ça vous choque.
Oui, bien sûr que ça me choque. Vont prendre le temps, effectivement, de faire un cours en plus pour l'élève.
Je vous propose qu'on demande à la professeure qui est avec
bien
nous,
sûr.
Claire Guéville. Vous n'aurez pas le choix de l'appliquer, ce protocole, même si vous ne savez pas comment ça va se passer. Une fois que vous saurez qui est cas contact, si tous ils sont cas contact et qui n'est pas vacciné, comment vous allez vous débrouiller, matériellement parlant ?
Bah, très honnêtement, moi, quand j'ai entendu le ministre parler d'enseignement hybride, qu'il faudrait gérer à la fois les élèves en présence et à distance, je ne vois pas comment c'est possible. Enfin, voilà, je vous le dis franchement, parce qu'on
met
a été nombreux à
essayer.
Voilà. Non, mais on n'a pas de caméra de toute manière. Enfin, si mon établissement n'était pas fermé, je vous montrerais volontiers à quoi ressemblent mes salles. Mais de toute manière, on n'a pas le matériel. Mais de surcroît, c'est extrêmement compliqué. Je vous rappelle qu'on a des classes qui sont extrêmement chargées et qui seront encore plus chargées à la rentrée. Donc, il faut quand même gérer, l'économie de la classe, hein, c'est-à-dire toute la logique des apprentissages. En même temps, gérer la distance, c'est juste on n'est pas face à des étudiants et déjà, on sait que pour les étudiants, c'était extrêmement complexe. Donc, cette déclaration de Jean-Michel Blanquer, je la prends comme un affichage. De toute manière, ce n'est même pas dans le protocole et ça ne peut pas se mettre en place comme cela. Ouais. Voilà, il dit
Dernière
ça.
Question, Claire Guéville. On a beaucoup entendu vos collègues enseignants, vous-même, votre syndicat, dire que les profs étaient à risque, effectivement, parce qu'ils étaient en contact avec des élèves qui se contaminaient beaucoup pendant la troisième vague. Où en est la vaccination des profs, globalement ? Elle n'est pas obligatoire, par nature, mais où elle en est ?
Eh ben, moi, je suis incapable de le dire. Le ministre, visiblement, a des enquêtes secrètes. Puisque ce matin il a dit que l'enquête qu'il avait faite, dont il disposait, faisait part de 80% des personnels enseignants vaccinés. Moi je ne sais pas, personne ne m'a demandé si j'étais vaccinée ou pas. Il se trouve que je le suis, mais pour on a tous constaté que les enseignants n'avaient jamais été prioritaires pour la vaccination.
Si vous l'étiez, en tout cas, si les chiffres du ministre sont vrais à 80%, vous êtes nettement au-dessus de la moyenne des Français en âge de travailler. Donc, c'est que vous l'avez été de facto.
Rien n'a été fait, en tout cas, par notre employeur pour faciliter cette vaccination.
Si les chiffres sont vrais, c'est la preuve qu'il n'y avait pas besoin de le prioriser, puisque les professeurs l'ont fait eux-mêmes. Si c'est
peut-être
vrai.
Qu'on aurait pu être vacciné plus tôt. Voilà. Mais cela dit, moi, je demande à voir les sources de Monsieur le ministre. Et je crois que ce matin, il n'a pas souhaité les donner.
C'est vrai aussi. Merci à vous, Claire Guéville. Bonnes vacances, surtout. Il vous reste mois. Profitez-en, à peu près. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national du syndicat SNES-FSU en charge des lycées. Vous êtes professeur d'histoire géo dans un lycée de Dieppe en Seine-Maritime. On accueille notre deuxième invité, Olivier Toutain. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
On a demandé aux enseignants ce qu'ils en pensaient. On va demander aux parents d'élèves, c'est les premiers concernés aussi. Vous êtes directeur fédéral de la PEP, la deuxième association de parents d'élèves du pays. Est-ce que c'est injuste d'évincer, comme il le dit Jean-Michel Blanquer, les élèves cas contact non vaccinés au collège et au lycée ?
Alors, si vous permettez, je vais juste faire une petite correction dans ce que vous avez dit. Je ne suis pas directeur, puisque n'étant pas employé par nature, je suis président de la PEP.
Président voilà. de la PEP, pardonnez-moi.
Et donc, pour répondre à votre question, ce que nous souhaitons, nous, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'éviction. Donc ça ne veut pas dire que l'on va se battre sur le fait qu'il ne faut pas que les élèves sortent de la classe. Ça veut simplement dire que nous allons, nous, travailler avec le ministère, avec les rectorats concernés, pour trouver des solutions qui permettent aux enfants qui sont concernés de ne pas se retrouver justement en situation de décrochage parce que n'ayant pas de cours, n'ayant pas de devoirs, enfin étant complètement...
Vous allez trouver une solution, en tout cas. Je reviens d'abord sur la première partie de notre question. Est-ce que c'est injuste d'abord de séparer, ou est-ce que vous comprenez la logique sanitaire de séparer les élèves vaccinés des non-vaccinés quand ils ont cas contact? C'est la première question.
Je dirais que si on devait aller plus loin, moi je ne suis pas médecin, mais à travers tout ce que l'on entend, tout ce que l'on comprend, moi aujourd'hui, pour reprendre ce que disait votre interlocutrice précédente, je suis vacciné, rien ne me garantit que moi, si j'attrape le Covid, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre.
Par exemple, il y a moins de chances, mais il y en a toujours une.
Et donc... par extension, un élève vacciné qui attraperait le Covid serait lui-même en capacité de le passer à ses camarades.
Donc il aurait fallu isoler tout le monde, enfin évincer tout le monde, pardon.
J'irai pas jusque-là, mais c'est ce que l'on pourrait en déduire. Donc,
donc c'est injuste pour vous?
Injuste, non, vous ne me ferez pas dire le mot injuste, mais... Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on puisse trouver, ce que nous souhaitons, c'est trouver des solutions.
Restez en ligne en tout cas avec nous, Olivier.
Juste
Jean-Marie,
une petite question peut-être, parce que c'est vrai que les restaurateurs, les professionnels, par exemple les exploitants de salles de cinéma, reprochaient beaucoup de ne pas avoir été sollicités et surtout avoir été interrogés avant évidemment d'anticiper cette décision. Est-ce que par exemple la fédération départementale, vous avez été vous sollicité pour justement échanger avec le ministère ou avec les responsables de l'éducation nationale?
Est-ce qu'ils ont été prévenus de cette mesure qui allait arriver? C'est comme pour nous.
Oui, Olivier Toutain.
Tout comme pour vous, non.
Voilà. Vous l'apprenez par les médias, en tout cas. On le découvre comme ça. 0-826-300-300. Restez avec nous, Olivier Toutain. Aurélie nous appelle de Toulouse au 0-826-300-300. Elle a deux lycéens, un lycéen et un collégien, je crois.
Bonjour, un collégien et une petite fille qui est en CM2.
Oui, voilà, presque. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous trouvez ça injuste ou pas?
J'ai envie de dire que c'est un peu comme pour les grands, c'est pour inciter tout le monde à se faire vacciner. Et je pense que c'est aussi normal d'isoler, on va dire, les personnes, les enfants, pour se protéger, pour les protéger. Mais je pense qu'avant tout, c'est pour nous inciter à nous faire vacciner, tous.
Surtout ça.
Et vous êtes d'accord avec le principe?
Si on était tous vaccinés, on n'aurait plus ce problème-là, effectivement.
Et donc, du coup, vous pensez que le gouvernement a raison de...
Mais
parlons vrai, elle a le droit de dire...
Aurélie, non, on va apporter une petite nuance.
Mais vous allez répondre à Aurélie, mais Aurélie, soyez pas timide. Donc, vous pensez que le gouvernement a raison de trouver, même par des moyens détournés, de pousser les gens à se vacciner ou à vacciner leurs enfants s'ils ont plus de 12 ans, quoi?
Pourquoi pas? Après tout, on est bien vaccinés contre la rougeole et la rubéole. Et si on veut aller en centre, si les gens veulent mettre leurs enfants en centre de loisirs, ils sont obligés de le faire et ils disent plus rien.
Et en tout cas, vous avez le droit de le dire. Vous avez tout à fait le droit de le dire, Aurélie. Merci beaucoup de votre témoignage. Profitez bien des vacances avec les deux, quand même.
Et vaccinez aussi.
Vaccinez aussi, en tout cas. Écoutez, portez-vous bien et faites attention à vous, quoi qu'il en soit.
Merci.
Aurélie, du côté de Toulouse, à la Oukili, la contrainte déguisée, ça vous énerve?
Écoutez, non, oui et non, parce que pour les enfants, je veux bien, mais pour les adultes, je peux vous dire que ça met en colère d'être infantilisé. Voilà. Maintenant, je le répète, les jeunes, les enfants, les élèves ne sont pas responsables du fait d'être vaccinés ou non. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, je voudrais quand même ajouter quelque chose à ce qu'a dit Mourad tout à l'heure, c'est que les personnes les plus réticentes à la vaccination, ou celles qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a quand même un gros pourcentage qui est issu des classes les plus pauvres. Ouais. Donc ça va vraiment être
catastrophique. Vos chiffres
de plusieurs
enquêtes. Ah,
donnez vos sources comme Jean-Michel Blanquer. J'aimerais avoir vos sources.
Non, vous avez beaucoup d'enquêtes.
La question
par les l'un et l'autre.
Les CSP++ représentent à environ maximum une vingtaine, 20%. Les femmes sont plus réticentes que les hommes, et ça s'explique par la peur d'être infertile.
On a des premières statistiques.
La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a pris le temps de la pédagogie?
Mais c'est le
vrai problème.
Là, les ministres sont obligés de s'adapter aussi au pass sanitaire.
Je vous propose d'adapter.
C'est pour ça que j'ai répondu tout de suite à la première question en disant que quand c'est détourné, c'est infantilisant et il vaut mieux faire face à ses propres contradictions et aux injonctions qu'on veut donner, les assumer et puis aller plus loin et faire avancer la situation.
De donner le mot de la fin à notre invité qui est toujours avec nous, le président de la PEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du pays, Olivier Toutain. Où en est la vaccination des élèves? Moi, je me rappelle, malgré tout, c'est vrai que lors de la deuxième et de la troisième vague, on a parlé jusqu'à un tiers des clusters qui auraient été, ça n'a jamais été plus ou moins vérifié, issus des écoles.
Alors ça, je serais bien en peine de répondre à cette question.
C'est difficile.
Par contre, il y a quand même un point qui m'étonne dans tous les médias, c'est que personne n'a relevé le fait que parmi les élèves de sixième, il allait y avoir des élèves qui auraient moins de 12 ans.
C'est vrai.
Et cela, on n'en parle pas.
C'est vrai. Alors que moins de 12 ans, ils ne peuvent pas se faire vacciner.
Donc ils vont se retrouver dans une situation un peu similaire à ce qui est vécu, on va dire, au niveau du primaire, c'est-à-dire un retour pendant 7 jours à la maison.
C'est ça.
Et cela, de façon quasi systématique. Voilà.
En cas de cas contact, je le rappelle, la règle pour l'école primaire, si vous avez des enfants à l'école primaire et que vous vous inquiétez, ce sera une fermeture des classes pour 7 jours. En tout cas, vous auriez préféré des fermetures de classes?
Autant que possible, on préfère éviter les fermetures de classe, mais c'est vrai que là, la grande difficulté va être de gérer, je l'imagine pour un enseignant, gérer sa classe et gérer les élèves qui sont distants.
Ce sera difficile en tout cas. Est-ce que c'est injuste? C'est la question qu'on vous posait sur le Twitter de Sud Radio, chers amis qui nous écoutez. Vous répondez oui à 86% d'entre vous. Alors vous n'allez pas jusqu'à dire injuste, on aura bien retenu aussi votre nuance, Olivier Toutain. Merci d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Président de la PEP, deuxième fédération de parents d'élèves du pays. Restez sur Sud Radio. Chers amis, place à Grâce Leplat qui revient dans le studio de Sud Radio et au clin d'œil des vraies voix. Figurez-vous, Grâce vous a trouvé une exposition photo qui a priori est complètement ratée. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. C'est à découvrir dans le clin d'œil des vraies voix tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Mourad Tabouche, Jean Terlon, Ala Oukivi et Grâce Leplat qui nous rejoint pour le clin d'œil des vraies voix. Alors c'est un drôle de clin d'œil, ma chère Grâce, puisque je le disais, c'est une exposition photographie complètement ratée, ou plutôt qui s'intitule, je cite, Errare humanum est. J'ai pas besoin de traduire.
Oui, alors c'est pas l'exposition qui est ratée, ce sont les photos. C'est une exposition pour le moins inattendue qui a lieu à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Là, la galerie d'art Labo 1880 expose 19 photos dites ratées. Corinne Chausson, bonjour.
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 Vous êtes la commissaire de cette exposition. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'exposer des photos ratées?
Alors, en fait, on voit quand même le contexte de la culture actuellement, pas très mirobolant. Donc, il y a eu beaucoup de ratés sur des spectacles. On s'est dit, du coup, on faisait une exposition qui était ratée. Voilà. Et voilà, on a raté l'expo, on a raté les photos,
on a tout raté.
D'ailleurs, on a raté la communication aussi parce que l'exposition se termine ce week-end. Donc, voilà, on a tout raté.
Plus sérieusement,
je fais une interview qui est ratée aussi.
Mais dites donc, mais remontez-vous le moral, Corinne Chausson, tiens.
Expliquez-nous, Corinne Chausson, c'est quoi une photo ratée?
Alors, une photo ratée, en fait, c'est complètement subjectif en réalité. Ouais. Il y a à la fois des erreurs techniques et aussi de l'appréciation, hein, c'est ce qu'on montre par cette exposition. Moi qui ai un projet que j'ai depuis longtemps, hein, dans mes valises, et effectivement, avec les périodes de confinement, tout ça, je trouvais que c'était une bonne idée pour lancer un appel à projet, parce que comme ça, les photographes pouvaient rechercher dans leurs archives, leurs négatifs, parce que c'est quand même une photo, une expo, et je gère aussi une galerie qui est exclusivement réservée à la photo non numérique, donc tout ce qui est photo argentique et procédé ancien. On se rend compte que c'est plus facile de rater des photos qu'avec le numérique, hein, finalement. Bien
sûr. Vous avez quoi comme photo, par exemple ?
Alors, en photographie, on a par exemple l'erreur de prise de vue. Là, il y a Cédric Newton qui nous a proposé une photo. Il tenait son appareil en bandoulière et puis l'appareil s'est déclenché. Donc, il y a un bout de sa veste, un bout de la manche de son manteau, et à travers le trou que ça fait, on voit un enfant qui court dans une rue.
Et du coup, la photo est magnifique. C'est comme la tarte tatin. Il n'a pas fait exprès, mais c'est sublime, quoi.
Voilà, j'allais parler de la tarte tatin. Vous m'avez raté mon effet.
Pardon. Voilà. Tiens, vous êtes avec un réalisateur sur Sud Radio qui connaît l'image. C'est son métier, Morad Aitabouche.
Non, je connais surtout les photographes qui ont du talent et qui rêveraient, eux, de pouvoir bénéficier d'une exposition. Et qui malheureusement aujourd'hui certains crèvent la dalle, des grands reporters qui ont fait pratiquement tous les conflits dans le monde. Pardon d'apporter une mode un peu, enfin comment dire, une tonalité un peu pessimiste, mais c'est vrai qu'ils crèvent quoi. Et c'est tellement terrible. Et quand il y a des gens comme vous qui avaient une galerie, c'est formidable. Franchement, ils font un travail. Mais exceptionnel.
Merci pour ce que vous faites, Corinne Chausson, en tout cas, pour cette expo.
Merci à vous, c'est gentil.
Bon courage pour cette photo, justement, les photos magnifiques, parce qu'elles ont été ratées. Mais il n'y a rien qui est raté sur ce radio.
Justement, Corinne Chausson, quelle est la récompense pour le gagnant ?
Alors justement, la personne qui va gagner aura la possibilité d'exposer au labo, en fait. Hein. Donc on pourra travailler sur la scénographie, l'éditing, le choix des photos, par exemple, si elle n'est pas capable de fournir suffisamment de photos, parce qu'à la fois, ce sont des amateurs et des professionnels qui ont répondu. On va travailler tout ça. Donc, ça, vous savez, c'est l'occasion de faire découvrir. C'est vraiment la volonté qu'on a, nous, au Labo 1880, de faire découvrir à notre toute petite échelle des nouveaux photographes.
Vous n'avez pas raté la communication.
Bravo à vous.
Vous avez trouvé comment en parler.
Merci beaucoup, Corinne Chausson. Merci pour cette exposition. Merci. Grâce, on rappelle qu'il était à découvrir à Clermont-Ferrand.
Oui, ou sur YouTube. Dans le Puy-de-Dôme, la galerie d'art Labo 1880, ou sur YouTube, en effet, vous pouvez trouver les photos.
Assez facilement.
Vous pouvez même voter en ligne, d'ailleurs.
L'exposition s'appelle Errare Humanum Est. On n'a pas fait trop d'erreurs, j'espère, ce soir, avec nos trois vraies voix. Morad Aitabouche, réalisateur de Sale Temps pour la planète. C'est ce soir à 20h45 sur France 5. C'est sûr.
Le golfe du Morbihan et ensuite la Corse.
Voilà, deux magnifiques régions touchées par le changement climatique. Merci à vous, Jean Terlon, pour votre première. La table était bonne, vous reviendrez.
C'est excellent.
Vice-président de la branche restauration, justement, de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci à vous, Alaa Oukili. Vous revenez demain à partir de 17h, journaliste Sud Radio, dans Les Vraies Voix. Restez sur Sud Radio. La soirée continue, puisque c'est Vincent Fernio qui, dans quelques minutes, vous emmène sur les routes de l'été.